France Musique.
Le journal d'Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. À ce jour, plus de 2 milliards de doses de vaccins ont été administrées dans le monde pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Pour l'essentiel, ce sont les pays les plus riches qui en ont profité. Pressés par l'OMS, les ministres de la Santé du G7 discutent depuis hier au Royaume-Uni d'un partage avec les pays les plus pauvres. Les États-Unis viennent dans ce contexte de faire une promesse, celle de débloquer d'ici la fin de ce mois 80 millions de doses anti-Covid à New York, c'est une correspondance de Loïc Loury.
Ces derniers mois, la pression s'était accrue sur la Maison-Blanche, bien silencieuse concernant sa participation à l'effort vaccinal international. Pression des alliés de l'Amérique d'abord, européens en tête, celle de certains élus du Congrès, ensuite inquiets de l'explosion de la pandémie en Inde ou au Brésil. À cela, il faut ajouter la nervosité des diplomates américains face à l'avance prise par la Chine ou la Russie en matière de diplomatie vaccinale. Situation d'autant plus intenable que les États-Unis, où la campagne de vaccination ralentit, sont couverts. Près de 70 millions de doses déjà distribuées sont prêtes à être injectées. Pour toutes ces raisons, Washington se décide donc à exporter une partie de ses surplus, 80 millions d'ici fin juin, dont 60 gérés par COVAX, les 20 millions de doses restantes étant destinées à des partenaires ou à des situations spécifiques. Nous ne partageons pas ces doses pour nous assurer des faveurs, assure Joe Biden, mais pour sauver des vies et mener le monde vers la fin de la pandémie à la force de notre exemple. Un exemple qui commençait à se faire attendre et qui ne changera rien à la campagne vaccinale américaine.
Le Japon, quant à lui, annonce ce matin qu'il va faire un don de plus d'un million de doses de vaccins à Taïwan. L'île où vivent plus de 23 millions d'habitants connaît en ce moment une flambée de cas de coronavirus. Elle accuse d'ailleurs la Chine d'entraver ses efforts pour obtenir justement des vaccins. Vers un impôt mondial sur les sociétés défendu par Joe Biden, cette idée va alimenter aujourd'hui et demain à Londres les discussions des ministres des Finances du G7. La France et l'Allemagne avaient pour la première fois, il y a 2 ans, proposé une refonte du système fiscal pour l'adapter aux réalités économiques du 21e siècle, sans succès jusqu'à présent. Après 2 coups d'État en 9 mois, la France décide de suspendre ses opérations militaires avec les soldats maliens. Il s'agit ici d'un sérieux avertissement adressé aux putschistes qui viennent de chasser du pouvoir les responsables du gouvernement de transition. Cette décision intervient alors que l'homme fort du pays, le colonel Assimi Goïta, doit officiellement être investi lundi président du Mali. Nathanaël Charbonnier nous appelle de Dakar au Sénégal.
Les soldats français ne patrouilleront plus avec les soldats maliens comme c'était le cas depuis 8 ans, mais la force tricolore Barkhane, elle, restera bien présente au Mali. Autre conséquence, la force européenne Takuba, elle aussi cessera temporairement de coopérer avec les Maliens. Du moins pour l'instant, tout dépendra de l'attitude du colonel Assimi Goïta et des assurances qu'il saura ou non donner à la France sur des questions aussi sensibles que la transition qui doit s'achever début 2022, sur la composition du prochain gouvernement qui devra laisser une grande place à la société civile ou sur son envie ou non de négocier avec les terroristes. Il faut dire que le bras de fer entre la junte au pouvoir et le reste de la communauté internationale est redoutable et biaisé. Laisser tomber le Mali, c'est ouvrir la porte au chaos et à la descente terroriste dans le sud de l'Afrique. Accepter sans rien dire, c'est donner les clés du pays à la junte qui a renversé à 2 reprises l'État en l'espace de 10 mois. Dans les 2 cas, en revanche, une perdante, la population qui, quoi qu'il arrive, se retrouve au mieux malmenée, au pire terrorisée.
Des enquêtes sont ouvertes depuis hier et une nouvelle réunion de crise est en ce moment dirigée par le Premier ministre. Jean Castex ira d'ailleurs dans la foulée ce matin visiter la plateforme d'appel des sapeurs-pompiers de Paris. Pendant un petit peu plus de 7 heures, les numéros d'urgence du pays n'ont pas fonctionné avant-hier soir. Plusieurs décès pourraient être liés à cette panne sans précédent provoquée par un bug informatique. Un problème rare de logiciel, reconnaît l'opérateur Orange qui a rapidement présenté ses excuses. Pour le patron du groupe Stéphane Richard, cet incident grave tombe très mal. Il est en effet depuis plusieurs mois maintenant Grégoire Le Callot dans le collimateur des pouvoirs publics.
Mauvaise semaine pour Stéphane Richard, le patron d'Orange. À peine le parquet de Paris venait-il de requérir contre lui une peine de prison dans l'affaire de l'arbitrage Tapie, qu'il se retrouve en première ligne pour justifier une panne aussi majeure qu'improbable sur le réseau Orange. Les 6 sites qui assurent le système d'aiguillage des appels téléphoniques en France sont en effet tous tombés. Le PDG ne peut pas vraiment compter sur la bienveillance de l'État, actionnaire minoritaire d'Orange, car la qualité du réseau de télécommunications est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2017, et à la veille de la suivante, le président de la République n'a pas l'intention d'endosser un bug qui touche, qui plus est, à la sécurité des personnes. Le gouvernement a d'ailleurs lancé sans tarder un audit. Au-delà de son patron, c'est toute l'entreprise qui se retrouve sur des charbons ardents avec cet incident. Depuis le début de l'année, Orange est mis en cause pour le mauvais état de son réseau de câbles en cuivre, celui du téléphone fixe, sujet à des pannes à répétition, et pour le développement jugé trop lent de la fibre optique.
Mais ce matin, la direction d'Orange annonce avoir lancé une enquête interne confiée donc à l'inspection générale du groupe pour identifier les dysfonctionnements. Les conclusions seront connues dans une semaine. Pas mal de pluie aujourd'hui sur l'ouest de la France, des orages sur le nord, le centre et en ce moment sur le bassin parisien. Il fait beau sur l'est et sur le sud. Les températures iront cet après-midi de 17 à 30 degrés, Jean-Baptiste Urvin.
Et des petits éclairs dans votre dos. Pardon ?
Non, j'ai dit Jean-Baptiste Urvin et non, Urbain, bien sûr.
Mais excusez-moi. Vous êtes plein d'urbanité, Olivier Denré. Bon week-end.
Oui, à très bientôt.
À bientôt.
À réécouter sur francemusique.fr.